Chers amis, nous reprenons notre approche de cet impératif. Soyez remplis de l'esprit en lisant deux passages. Le premier dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6, un extrait de la constitution du royaume de Dieu. On parle tant de constitution aujourd'hui, ben nous en avons une. Et Dieu l'a donné en Jésus-Christ à l'aube du ministère terrestre de son Fils Jésus-Christ dans ses chapitres 5 à 7. Et au chapitre 6, Jésus nous dit ceci, versets 19 à 24, auquel nous ajouterons le verset 33, c'est-à-dire l'avant-dernier de ce chapitre. Matthieu 6, 19, 24, puis 33. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil, entre parenthèses dirions-nous, celui qui convoite les trésors, l'œil, hein, convoitise des yeux. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est simple, en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, littéralement, et le terme signifie qu'il est mauvais dans le domaine moral, s'il est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître ou de seigneur, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, donc un terme araméen, la langue parlée couramment par Jésus, que l'on entend encore ici et là. Nous étions il y a une dizaine d'années en Syrie, dans le désert de Syrie, et nous avons entendu dans un village parler araméen par toute la population, c'est assez rare et c'était très intéressant. Mammon, donc, qui personnifie ici la puissance de l'argent, derrière laquelle se cache trop généralement la puissance des ténèbres. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et puis nous allons vers la lettre de Paul aux Colossiens, évoquée déjà ce matin, Colossiens au chapitre 2, dont nous lirons les versets 8 à 10, où Paul répond à l'enseignement pernicieux de faux docteurs, syncrétistes, qui sont en train d'introduire ce qui va devenir peu à peu et de plus en plus un énorme problème dans toute l'Église de Jésus-Christ pendant plus de deux siècles, qu'on appelle le gnosticisme. Nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais c'est en chemin. Et Paul, donc, dit ceci au verset 8 du chapitre 2, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, un appât vide, une creuse duperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude, le plérôme, nous en avons parlé ce matin, de la déité. vous avez tout pleinement en lui, vous êtes rempli en lui, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous arrêtons ici. Nous avons donc commencé à aborder directement notre thème, soyez remplis de l'esprit, ce matin, en évoquant tout d'abord quelques remarques d'ordre général pour bien comprendre l'étendue de ce que cache cette expression rarissime sous la plume de l'apôtre Paul, puisque lui ne l'utilise qu'une fois dans cet épître, et il évoque à 13 reprises dans les écrits de Luc également, où c'est plutôt Luc qui évoque 13 fois ce fait d'être rempli ou plein du Saint-Esprit. Nous sommes quelque peu attardés sur le Saint-Esprit pour souligner, ou de manière très partielle, les dimensions extraordinaires du Saint-Esprit, ses vocations premières, son activité. Nous avons donné un certain nombre de précisions à partir de Jean 14, versets 15 à 18. Et puis nous avons commencé à aborder le verbe « soyez remplis ». Et nous avons passé finalement un certain temps aux remarques préliminaires qui étaient destinées à nous aider à ne pas confondre le fait d'être rempli du Saint-Esprit avec celui d'être baptisé du Saint-Esprit ou dans, on peut utiliser même de préférence dans, rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de confusion à cet égard. Je n'y reviens pas, mais je vous annonçais à l'instant de nous arrêter dans cette étude que nous considérerions dans ce cadre ce que j'ai appelé le totalitarisme du Saint-Esprit. Nous nous souvenons que être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de celui qui habite déjà en nous. La question qui se pose à nous n'est pas de savoir combien nous avons du Saint-Esprit, mais combien lui, en réalité, a de notre vie. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce que nous appelons, par simplification et commodité, la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez que lorsque nous accueillons quelqu'un dans notre domicile, je dirais que la profondeur de la pénétration de celui ou celle ou de ceux que nous accueillons, la profondeur de la pénétration à l'intérieur du domicile est souvent liée à ce que nous connaissons de cette personne. Bien sûr, il est des personnes qui doivent aller dans certains lieux particuliers, tout simplement parce que un objet, quelque chose fonctionne mal, et là, on doit leur ouvrir notre maison un peu plus grand. Mais nous savons que généralement, il est des personnes que l'on reçoit presque sur le paillasson, il en est d'autres que l'on reçoit dans le vestibule, il en est d'autres encore qu'on introduit dans le bureau, d'autres qui vont jusqu'au salon, il en est qui vont un peu plus loin qu'on reçoit à sa table pour le repas, et puis il y a ceux qui ont droit à la chambre parce qu'ils vont avoir un séjour un peu plus prolongé, soit une nuit, soit deux nuits, soit 10 nuits, soit 7 ans, je pense à un ami qui voulait recevoir pour quelques semaines et qui finalement s'est retrouvé, pardon de le dire ainsi, encombré pendant 7 ans. Il était célibataire au départ et quand il a quitté, il était marié, il y avait des enfants. C'était pas prévu au programme, mais ça a été assez difficile à vivre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Tout simplement parce que lorsque le Saint-Esprit vient élire domicile en nous. Nous l'avons dit, il y vient dans sa plénitude. Il n'est donc pas une force impersonnelle dont une mesure plus ou moins grande nous serait accordée. Mais quelle place allons-nous lui donner dans notre domicile? Il en est qui préfère qu'il demeure dans le vestibule. Il en est d'autres qui lui donnent un petit peu plus de place et qui acceptent qu'il entre au bureau. Peut-être le bureau est-il trop dangereux pour lui, parce que dans un bureau, il y en a des choses, hein. Il y a parfois des bibliothèques problématiques et d'autres éléments au niveau du courrier, etc., qui pourraient poser problème. Il arrive qu'on le reçoive au salon, mais là aussi, parfois, ça peut poser des problèmes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, le Saint-Esprit, quand il vient demeurer en nous, est un hôte envahissant. Et nous n'aimons pas toujours qu'il vienne nous déranger dans certaines de nos activités, n'est-ce pas? Nous n'avons pas forcément envie de le laisser fourrer son nez partout dans notre vie. Et ça, c'est notre grand problème. Ce qui est, je trouve, extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit, dont la puissance est absolument illimitée, qui pourrait forcer les pièces, se montrer très irrespectueux, pourtant ne l'est pas. Le Saint-Esprit est un hôte respectueux. Bien sûr qu'il va savoir être constant, persévérant, il va savoir gentiment insister, il va utiliser toute une stratégie céleste parce que il sait, lui, que notre véritable bonheur dépend de tous les lieux de sa domination dans notre vie. Il est donc totalitaire et envahissant. Il faut savoir que le Nouveau Testament emploie environ 1400 fois, ce n'est pas rien, ces petits mots « tout » et « toujours ». Environ 1400 fois, c'est-à-dire que dans le vocabulaire biblique, ce sont des termes qui occupent une place de tout premier choix. Quelqu'un a essayé de faire une synthèse de l'usage de ces petits mots, tout et toujours, dans le cadre de notre sujet. Et voilà ce qu'il écrit. Dans une vie remplie du Saint-Esprit, cet esprit occupe toute la place. C'est pourquoi les petits mots « tout et toujours » font allusion à une telle vie. Jésus parlait de la plénitude de l'Esprit comme de l'accomplissement du commandement suprême de Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Celui qui est rempli de l'Esprit fait tout pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, il marche en toute humilité, en toute bonne conscience, avec toute joie, toute sagesse, toute piété, toute soumission, toute pureté, toute patience, avec une pleine assurance, une parfaite constance et douceur, une entière persévérance, une foi entière. Il rend toujours grâce à Dieu pour toute chose. Il est toujours joyeux parce qu'il se réjouit toujours dans le Seigneur. Il a la paix en tout temps et il poursuit toujours le bien. J'ai volontairement fait l'économie de toutes les références. Mais si j'en ai fait l'économie, ça ne veut pas dire que vous devez en faire l'économie. Et dans un travail personnel de suite, pour aller plus loin, approfondir, et par l'usage des cassettes ou des CD, vous pourrez essayer, et je suis persuadé que vous y réussirez, à retrouver derrière cette longue citation toutes les références qui correspondent aux affirmations de l'auteur de ce texte. Tout et toujours. Quand je pense ici à, je l'ai noté, c'était le 6 mai 1994, j'arrivais ce vendredi-là à Chilly-Mazarin, donc dans un autre secteur de la région parisienne, pour tenir une série d'enseignements dans une église qui m'a très souvent accueilli. Et j'étais reçu chez un jeune couple qui avait une petite fille que j'ai revue depuis, qui bien sûr a bien grandi, mais à l'époque elle avait 5 ans. Et il se trouve que cette petite Marion me prêtait sa chambre. Et ça a toujours été intéressant de vivre dans une chambre d'enfant. Et j'ai passé pas mal de mes séjours dans des chambres d'enfants. Parfois, il fallait même tisser des relations chaleureuses avec l'enfant, parce que je me rendais compte parfois que, manifestement, on avait considéré qu'il n'avait rien à dire, sa chambre n'était pas la sienne, elle était là pour le serviteur de passage. Je ne vous recommande jamais de procéder ainsi. Il est important que un enfant puisse être convaincu avec douceur que c'est un bienfait que de prêter sa chambre, qu'il puisse apprendre à le faire avec joie. En tout cas, c'était le cas de Marion. Marion était heureuse. Elle était aux anges, comme on dit. Et à un moment donné, alors que, avec elle, je visitais sa chambre, parce qu'elle a quand même tenu à me faire visiter sa chambre comme on visite un beau musée, et c'était un régal, ce petit bout de chou de 5 ans, à un moment donné, quand j'étais en train de la remercier pour ce beau cadeau, pour mon séjour, s'est tournée vers moi et m'a dit « Tu sais, je te prête tout. » Et au bout d'un moment, elle a ajouté « Même mes peluches. » J'ai trouvé ça tellement touchant que ça fait partie de mon fichier d'illustration. Et je pense que Marion doit être très heureuse parce que je l'ai revue depuis adolescente et je lui ai dit « Tu sais, tu ne te souviens pas, toi. » Et je lui ai raconté cette histoire. Bien entendu, elle ne s'en souvenait plus. Mais je lui ai dit combien j'avais été touché quand elle était enfant de cette chambre qu'elle mettait totalement à ma disposition. Je pouvais toucher à tout, j'étais chez moi. Combien cela est bienfaisant. Je pense, par contre, à cet homme de Dieu anglais qui a écrit des livres remarquables et qui disait lors d'une réunion « J'ai donné mes clés au Seigneur. » Mais il me demanda « Est-ce que ce sont bien là toutes tes clés ?» Je répondis tout confus « Toutes, sauf une. » Une toute petite que je garde. Le Seigneur me dit, je veux celle-là aussi. J'ai une grande lutte intérieure. Je ne pouvais que dire, Seigneur, fais que je veuille vouloir. Quelle honnêteté. Fais que je veuille vouloir. Et tandis que je répétais ces paroles en sanglotant, le Seigneur m'entendit et prit la petite clé. Le Seigneur veut toute la place. Le Seigneur veut toute la place pour que notre vie soit une vie de plénitude et non une vie étriquée, malheureuse, de défaite. Oh, lorsqu'il a toute la place, cela ne veut aucunement dire que nous aurons un de ces bonheurs à la mode très humaine. Notre bonheur sera humidifié par bien des larmes. Mais les larmes n'empêcheront pas la sérénité du cœur. Des moments difficiles, des périodes désertiques, des périodes de douloureux combats. D'ailleurs, nos combats ne cesseront pas jusqu'à ce que nous ayons vécu le grand passage vers la lumière éternelle. Et il vaut mieux que nous adoptions d'emblée la juste attitude à cet égard. Il m'arrive souvent de dire que lorsque nous serons là-haut, nous serons là-haut comme des anciens combattants. Il y a ceux qui, ici-bas déjà, s'arrêtent en cours de route pour pouvoir exhiber leur rangée de médailles d'anciens combattants. Et le Seigneur Jésus a beau leur dire que la lutte n'est pas terminée tant qu'on est ici-bas, ils en sont déjà à ce stade-là, n'est-ce pas? Nous aurons là-haut le bonheur de vivre en tant qu'anciens combattants et de surcroît, nous aurons cette vision, mais d'une réalité incroyable, nous verrons face à face celui qui, dans l'éternité à venir, gardera les marques de ses souffrances et de son combat, de sa mort expiatoire, le Seigneur Jésus. Tout sera fait pour que nous nous souvenions pourquoi nous sommes là-haut. Parce que lui a combattu et qu'il a combattu jusqu'à la mort et que c'est à cause de cela et par sa résurrection également que nous sommes sauvés. J'ai sous les yeux cette illustration tellement belle et toute simple. L'auteur de ce texte dit ceci: peu avant de mourir à l'âge de 92 ans, Peter Doute a dit « Je mesure 1,93 m et chaque centimètre appartient au Seigneur. » L'auteur du texte ajoute « Je le connaissais depuis 65 ans et je sais qu'il disait vrai. Jeune homme, Peter avait laissé un emploi bien rémunéré afin de servir comme évangéliste pour son Église. Il a grandement influencé des centaines de vies, même s'il était peu instruit. Quand j'avais 19 ans, il m'a défié de témoigner, de prêcher l'évangile au coin des rues. Qu'est-ce qui faisait que Peter était si efficace? Son style de vie? Tout le monde voyait clairement que Dieu était son maître. Oh, nous pourrions évoquer maintenant pendant tout un temps un des sujets majeurs de la Bible et du Nouveau Testament en particulier, celui de la Seigneurie de Jésus-Christ. Je suis impressionné à la lecture continuelle des Écritures et en particulier du Nouveau Testament de voir la place qu'occupe la Seigneurie de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jésus signifie « il sauve », n'est-ce pas? Dans ce nom même, nous avons le programme extraordinaire du salut, « il sauve ». Mais ce qui est intéressant à observer dans le Nouveau Testament, c'est combien de fois Jésus-Christ porte le titre de sauveur. Il a été élevé comme prince et sauveur. Vous avez quelques textes qui sont très très beaux, notamment dans le livre des Actes. Alors, il se trouve que Jésus-Christ porte le titre de sauveur 16 fois seulement dans le Nouveau Testament. ce qui en aucun cas ne sous-entend que c'est quelque chose de secondaire. Mais tout simplement, ce titre de sauveur est injecté, inclus dans sa Seigneur. Parce que on peut recenser près de 660 mentions du terme Seigneur quand il qualifie, quand il est un titre, soit du Père, près de 150 fois, soit du Fils, plus de 460, près de 470 fois, et puis il reste une bonne cinquantaine de fois où on peut attribuer le titre soit au Père ou au Fils, parce que ça n'apparaît pas nettement dans tel ou tel texte du Nouveau Testament. Vous vous rendez compte? 650 mentions de la Seigneurie de notre Dieu dans le Nouveau Testament. Et je laisse de côté tous les autres mots qui ont la même racine, qui appartiennent à cette famille du mot Seigneur parce qu'ils sont un certain nombre. C'est assez impressionnant. Et bien sûr, j'élimine tous les autres seigneurs qui n'ont rien à voir avec la Seigneurie du Père et du Fils. Alors, bien entendu, nous ne sommes plus au temps des seigneurs, et c'est certainement bien ainsi. Mais à cause de cela, nous avons généralement perdu de vue ce que signifiait une véritable seigneurie dans l'Empire romain. Quand on sait que des milliers et des milliers de croix se sont dressées, ont jalonné les voies romaines durant les trois premiers siècles de l'histoire de l'Église, l'Église de Jésus-Christ, et que sur ces croix, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles agonisaient simplement parce que, à un moment donné, ils avaient été confrontés avec un choix, soit ils affirmaient à haute et intelligible voix que César était leur seigneur, soit ils s'y refusaient en disant « Pour moi, je ne peux pas, c'est Jésus-Christ qui est mon Seigneur. » Vous savez, l'Empire romain, comme aujourd'hui, était très tolérant. Il ne vous était absolument pas interdit d'adorer Jésus. Et on aurait bien aimé que une sorte de statue de Jésus puisse même figurer dans le panthéon romain à Rome, n'est-ce pas ? Là n'était pas le problème. Le problème, c'était uniquement l'exclusivité de la seigneurie de Jésus-Christ qui éliminait d'emblée l'exclusivité de la seigneurie de César. Et quand on sait que lorsque les soldats qui gardaient le vieillard Paul, puisqu'il s'intitule ainsi dans Philémon, dans sa prison à Rome, lorsque les soldats quittaient l'endroit où il était gardé, après souvent avoir été bouleversés par le témoignage de cet homme de Dieu, puisqu'ensuite toutes les casernes romaines jusque dans la proximité de César, on savait le rayonnement et le témoignage percutant de ce vieillard, lorsqu'ils empruntaient en patrouille les rues de Rome pour rejoindre leur cantonnement, leur caserne, et qu'ils croisaient en cours de route une patrouille descendante qui allait pour garder le même apôtre ou partait ailleurs, ou qu'ils croisaient même des fonctionnaires, bien sûr, ils ne disaient pas bonjour, bonsoir, il fait beau, on se saluait par cette expression « César est le Seigneur ». C'était la salutation classique. Et quand l'un disait « César est le Seigneur », l'autre qui le croisait lui répondait « Mais oui, le Seigneur c'est César ». Alors vous imaginez ce qui se passait lorsqu'un de ces soldats qui venait d'être bouleversé et auquel à qui Paul avait soigneusement expliqué qu'on ne pouvait pas avoir deux maîtres, et qui donc était tout imprégné de cette découverte bouleversante de Jésus-Christ, se retrouvait dans la rue et que subitement il entendait cette salutation à laquelle il devait répondre, il était immédiatement confronté avec un choix. Et il savait que s'il y avait des hésitations, s'il refusait de dire la chose, si même il allait avoir l'audace de dire par un autre cri qu'il se situait sous la seigneurie de Jésus-Christ, il risquait gros, d'autant plus que ce soldat, quand il avait prêté serment pour être soldat, et vous savez que ça durait des années, hein, la conscription, après l'enrôlement, c'était pour des années et des années, quand il avait prêté serment, ce qu'on appelait le sacrement, sacramentum, c'était précisément le serment, et c'est devenu un sacrement ensuite, avec tout ce sens d'ailleurs que l'on retrouve dans la théologie catholique, il avait juré fidélité absolue, obéissance inconditionnelle à César, n'est-ce pas ? Donc il était en train de renier son serment, en quelque sorte. Alors on pourrait évoquer un certain nombre d'hommes et de femmes de Dieu que l'histoire de l'Église nous a légués en quelque sorte. Nous aurions pu évoquer longuement Polycarpe, cet octogénaire, 84 ou 86 ans, qui a été un conducteur très très apprécié à Smyrne, puisque nous avons une lettre au début de l'Apocalypse, Apocalypse 2, n'est-ce pas, à l'église de Smyrne, et cet homme de Dieu dans le courant du second siècle, qui avait connu dans ses jeunes années l'apôtre Jean, finalement avait un tel rayonnement, était tellement centré sur la personne de Jésus-Christ, puisqu'il a écrit une lettre, il a écrit un certain nombre de lettres, dont une lettre aux chrétiens philippiens, dans laquelle il exalte la personne de Jésus-Christ. Si bien que finalement il a été pourchassé, arrêté, et traduit devant en quelque sorte un tribunal, dirions-nous aujourd'hui, il a été emmené jusqu'aux arènes, si vous voulez, et là, dans l'amphithéâtre, toute la foule, le proconsul, les représentants de Rome insistaient pour qu'il nie la divinité de Jésus-Christ, qu'il s'écrie au vu et su de tous « César est le Seigneur ». Même des membres de sa famille se sont approchés de lui. Je crois que son père a cheminé un moment avec lui en disant « Mais écoute, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais », etc. Et ce vieillard a résisté. Et on a un entretien bouleversant entre celui qui l'interrogeait et lui-même, où continuellement il répond pour dire « Mais je ne peux pas accepter autre chose que la seigneurie de celui que je sers depuis tant de décennies, tant et tant d'années. » Et finalement, puisqu'il refusait de céder, c'était un jour de sabbat. Et ce sont les Juifs, mes amis, qui ont violé le sabbat. Oh, vous savez, je l'aurais peut-être violé aussi. Je ne dis pas cela parce que ce sont les Juifs, hein. Parce que nous sommes tous compris dans les atrocités qui ont été commises à l'égard de nos semblables. Mais en tout cas, dans cette situation, ce sont les Juifs qui ont violé le sabbat pour aller chercher le bois qui était destiné à brûler vif Polycarpe. Mais son témoignage quant à la seigneurie de Jésus-Christ dans sa vie a été tel qu'immédiatement après sa mort, les autorités ont décrété que on ne persécuterait plus les chrétiens pendant un certain temps. Voilà une illustration. Mais nous sommes là au cœur de notre thème, et j'aime cette pensée de cet homme de Dieu, Hudson Taylor, ce missionnaire chef de file remarquable en Chine, qui a dit ceci: combien peu de personnes dans le peuple de Dieu ont reconnu que si Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Totalitarisme du Saint-Esprit. Totalitarisme du Saint-Esprit. Dans mon enfance, il est un livre que j'ai lu je ne sais combien de fois parmi beaucoup d'autres, parce que ce livre était une biographie d'un as de l'aviation dont l'avion s'est abattu et qui est mort en 1917. De nombreuses rues en France portent le nom de ce héros aviateur de la Première Guerre mondiale, Georges Guynemer. Et Georges Guynemer a eu des devises dans sa vie, comme souvent ces hommes d'armes, et sa devise était celle-ci: on n'a rien donné quand on n'a pas tout donné. On n'a rien donné quand on n'a pas tout donné. Alors ça nous dérange, ce totalitarisme du Saint-Esprit. Parce que vous savez comment nous sommes tellement tentés de nous comparer à ceux qui laissent moins de souveraineté dans leur vie et de seigneurie au Saint-Esprit dans leur vie. Tu vois, Seigneur, est-ce que tu ne penses pas qu'avec mes 75%, c'est quand même pas mal? Pense donc aux frères et à la sœur Intel, ils en sont loin. Oh, et puis encore, je veux bien monter à 80%, mais c'est déjà un exploit, n'est-ce pas? Et puis, avec tristesse et persuasion, le Saint-Esprit nous dit non. Non, non. Je veux vraiment toute la place, je veux 100% de ta personne, 100% de ta vie. Alors, pourquoi le totalitarisme du Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit ne se contente-t-il pas de nos 95% ou de nos 80%? On peut se poser la question. Alors là, je vais essayer de vous le présenter sous forme de parabole, en imaginant que j'habite dans cette région, ou dans une région peut-être encore plus campagnarde, je ne sais pas s'il y a des champs, si autre chose, s'il y a des champs, par là j'espère qu'il y en a quelques-uns, c'est important, pour l'exemple. Et donc, je suis membre d'une église, vous me connaissez, nous sommes frères et sœurs, nous sommes heureux d'être ensemble, et puis vous découvrez un jour dans le journal ou dans un journal d'annonce locale qu'il y a un terrain de 1 hectare, 10 000 mètres carrés, qui est en vente. Et vous ouvrez les yeux tout grand, parce que vous êtes en recherche dans ce domaine, lorsque vous découvrez qu'à côté de cette annonce, il est indiqué que le propriétaire du champ, c'est moi. Vous ne le saviez pas jusqu'alors. Et vous vous précipitez sur votre téléphone pour me dire « Tu es vraiment cachotier, Maurice ». Communion, communion, parle-en. Il a fallu que j'aille dans un journal de petites annonces pour découvrir que tu vends un champ, alors que moi je cherche un champ depuis longtemps. Et Maurice, comme tu es mon frère, je suppose que entre frères, on s'accorde des régimes de faveur, et que sans doute tu as un prix qui est très évangélique à me proposer pour que je t'achète ce champ. Donc, je dis, écoute, voilà mon prix, et j'articule une somme. Et j'entends de l'autre côté une espèce de cri de triomphe. C'est plus que le final de l'hymne à la joie de Beethoven, n'est-ce pas? c'est un débordement de bonheur. Ah, vraiment, tu es un frère, c'est extraordinaire. Écoute, je viens tout de suite et on file chez le notaire. Et je n'ai même pas le temps d'ajouter quoi que ce soit qu'il a déjà raccroché. Alors il arrive chez moi et je lui dis, écoute, mon frère, calme-toi. Calme-toi. Tu as raccroché tellement vite que je n'ai même pas eu l'occasion de t'expliquer qu'il y avait quand même des clauses. Des clauses même que j'appelle restrictives. Alors, son cœur commence à palpiter un petit peu plus, et il se met à écouter. Je dis, écoute, c'est très simple. La première clause, c'est que, tu vois, mon frère, ce terrain de 10 000 mètres carrés, avant d'être ma propriété, était celle de mon papa, et avant de mon grand-papa, et avant de mon arrière-grand-papa, et on peut remonter ainsi jusqu'à Louis XIV. C'est un terrain qui a une valeur historique et émotionnelle extrêmement forte, élevée pour moi. Et c'est avec un déchirement profond que je m'en sépare. Alors, j'ai quand même voulu pouvoir garder quelque chose de ce terrain. Oh, tu sais, pas grand-chose. 100 mètres carrés. 100 mètres carrés sur ces 10 000. Alors, mon frère qui m'entend débiter ma clause restrictive, subitement retrouve le sourire en disant « Oh, si ce n'est que 100 mètres carrés que tu veux, on va te les donner, tes 100 mètres carrés !» Et j'imagine que dans sa tête, il est en train déjà de se dire « Bon, le terrain, il est comme ça, un petit peu comme une enveloppe dans laquelle on va mettre du courrier, on ferme et puis on met le timbre bien en haut à droite. Hein. » Donc, il a déjà choisi l'endroit le moins préjudiciable pour lui. Quand il y a une seconde clause restrictive qui pointe le bout de son nez. Parce que je lui dis, mais tu vois, il y a donc une seconde clause et elle concerne le positionnement de ces 100 mètres carrés. Tu imagines bien que si on les place simplement dans le petit coin ici, ce sera peu agréable de venir pique-niquer à cet endroit. Parce que quand je regarderai, bien sûr, je verrai d'un côté tout mon champ qui me rappellera tout ce passé, toute ma famille. Mais quand je regarderai de l'autre, je verrai des choses qui ne me disent absolument rien quant au passé, quant à mon histoire. Je veux être environné par mon passé, par l'histoire de ma famille. Et donc, simplement, la seconde clause restrictive, c'est que ces 100 mètres carrés soient vraiment au milieu du terrain de 10 000 mètres carrés. Mes amis, il est devenu tout blanc, mon cher frère. Parce que, à moins d'être d'affaires qui sont liées au problème du droit de passage, que de conflits liés à cette question du droit de passage. Il faut que si une propriété est enclavée dans une autre, le propriétaire de cette partie enclavée puisse avoir accès aux voies publiques, etc. N'est-ce pas? Donc il faut qu'il ait son lieu pour passer. Alors bien sûr, parfois il est tout petit, parfois il est un peu plus grand, puis les uns essayent de l'élargir, les autres de le rétrécir, on le rogne, etc. Et ça donne lieu à des histoires qui n'en finissent pas. Dois-je vous dire que, après avoir l'an dernier raconté cette parabole dans une église évangélique de Toulon, nous avions un repas en commun ensuite et un membre de cette église est venu me voir pour me demander si finalement j'avais réussi à vendre ce fameux terrain parce qu'il pensait que c'était effectivement ce qui était arrivé. Vous avez compris le sens de cette histoire. Le problème est tout simple. C'est que si ma vie est ce terrain, et que dans ma vie, je garde un petit bout de terrain qui sera vraiment à moi, Ben, tout d'abord, le problème, c'est qu'il ne sera pas à moi. Parce que ce que nous ne donnons pas au Seigneur, en réalité, c'est la puissance des ténèbres qui s'en occupe. Et voyez-vous, quand la puissance des ténèbres s'occupe de la partie que nous réservons dans notre vie pour nous, elle a l'art de multiplier les droits de passage, parce qu'elle ne respecte rien. Ça veut dire que, à partir de ce petit bout de terrain que je considère comme étant à moi, la puissance des ténèbres va polluer l'ensemble du terrain, ce qui est déjà au Seigneur, parce qu'elle va piétiner partout, parce qu'elle va se frayer de nouveaux chemins, n'est-ce pas? Si bien que finalement, je vais devenir le plus malheureux des hommes. Et le croyant au cœur partagé est le croyant le plus misérable qui existe sur cette terre. Nous aurions pu prendre une autre illustration, celle de Monsieur Dupont, bien français, bien sûr, qui vend sa maison avec une seule réserve. Au moment où il vend la maison, il dit au propriétaire potentiel à qui il est en train de la vendre, écoutez, s'il vous plaît, j'ai une faveur à vous demander. J'aimerais simplement pouvoir conserver, ou alors l'autre se dit, un clou. Un clou, oui, j'aimerais conserver un clou planté dans le mur de l'entrée. Un clou-clou. C'est pas grand-chose, un clou-clou. Et bien sûr, très généreusement, le nouveau propriétaire est tellement heureux des conditions de vente et tout. Qu'est-ce que c'est? Un clou. Mais si tu veux ton clou, tu l'auras, mon vieux. Même si c'est un biclou, peu importe, on te le donne. Et donc, c'est accordé. Et quelques semaines plus tard, l'ancien propriétaire arrive chez le nouveau propriétaire et dit, écoutez, vous savez, j'ai un clou chez vous, mais bien sûr que tu as un clou dans le mur de l'entrée. Est-ce que j'ose simplement suspendre ce petit sac que voici sur le clou en question? Le propriétaire se dit, oh, un petit sac sur un petit clou, ça ne prend guère de place. Écoutez, monsieur, allez-y. Quelques semaines plus tard, l'ancien propriétaire revient et dit, mais puis-je déposer ce petit paquet dans le petit sac, sur le petit clou? Étonné, le nouveau propriétaire, qui est déjà si bien installé, dit, écoutez, oh, franchement, que le sac soit un peu vide ou un peu plein, quelle différence, il n'occupera guère plus de place qu'il en occupe maintenant. Quelques jours plus tard, une odeur étrange émane manifestement d'un endroit de la maison et se répand dans toute la maison. Cette odeur est pénétrante, épouvantable, elle prend de plus en plus de place, si bien que finalement, parce que je vais au bout de l'histoire, le propriétaire dut déménager. L'odeur dans la maison était devenue intenable à cause d'un clou. Un clou. Nul ne peut servir de maître. Dieu est absolument logique quand il est totalitaire dans ce domaine. Totalitarisme de notre Dieu. D'ailleurs, la nature, le monde animal, va dans ce sens, et j'ai eu le privilège avec mon épouse de connaître pendant quelques années un apiculteur qui à la fois était un peu un savant de l'apiculture, il avait beaucoup lu à cet égard, c'était un homme de la nature, et bien entendu il pratiquait à partir de tout ce qu'il avait découvert, et il a voulu quelque peu nous initier à la vie des abeilles et aussi à la récolte du miel. Et donc, nous avons été bien harnachés, déguisés, hein, comme on le fait en ces circonstances. Et nous avons appris beaucoup de choses. Et nous avons notamment appris ceci, c'est que il ne peut y avoir qu'une seule reine par colonie, en quelque sorte. Que se passe-t-il quand une reine naît dans la ruche? Elle sort plus ou moins péniblement de son alvéole et aussitôt, l'instinct la conduit à faire l'inspection de toutes les autres alvéoles pour y voir s'il n'y a pas d'autres reines sur le point de naître. Et mes amis, si une autre reine est sur le point de naître, elle l'exécute, elle l'assassine dans son alvéole. L'instinct est là, dans la plénitude de son activité. Et bien entendu, les abeilles qui assistent à ce crime ne la poursuivent pas devant les tribunaux des abeilles. Avec leurs ailes, les abeilles applaudissent de tout leur cœur parce qu'elles considèrent que cette reine est d'une grande sagesse. Et maintenant, s'il arrivait que deux reines naissent simultanément et sortent simultanément de leurs alvéoles, que se passe-t-il? Eh bien, les abeilles se disent « chic alors, on va avoir un combat de boxe ». On dresse un ring, n'est-ce pas? Et on entoure ces deux reines pour les pousser à se battre l'une contre l'autre. Malheur à celle qui ose reculer, on la repousse au centre du ring, de manière à ce que finalement l'une des deux meure. Et s'il arrivait par hasard que les deux meurent, on préfère, mes bien-aimés, avoir une famille, une colonie sans reine que d'avoir une colonie avec deux reines. Alors, ce qui arrive aussi, c'est que maintenant, parce qu'il y a une désorganisation dans le monde animal comme dans le monde végétal et comme dans le monde humain, ben, il arrive aujourd'hui qu'il y ait deux reines. Vous voyez, c'est intéressant de voir dans la désorganisation de notre société, finalement, combien toutes sortes de lois partent en débandade, n'est-ce pas? Mais ce sont des situations absolument anormales. Nul ne peut servir de maître. Alors, nous aurions pu prendre beaucoup de temps pour évoquer ces parties de notre personne que nous nous réservons. J'ai sous les yeux ce beau passage d'Ésaïe 44, verset 5, qui dit, tourné vers l'avenir d'ailleurs, « Celui-ci dira, j'appartiens au Seigneur. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira sur sa main, appartenant au Seigneur, consacré au Seigneur, sainteté au Seigneur, et il se parera du nom d'Israël. » Mes bien-aimés, regardons nos mains. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Est-ce que mes mains sont consacrées au Seigneur? Est-ce que mes mains ont été consacrées au Seigneur? Est-ce que vraiment je peux marquer sur mes mains appartenant au Seigneur? J'ai été bouleversé il y a déjà bien des années et j'ai retenu cette histoire authentique qui se passe ou qui s'est passée en Russie lorsque les soldats de Napoléon ont envahi la Russie. Ils sont arrivés dans un village dont tous les habitants avaient fui à l'exception d'un seul homme, il s'agissait d'un bûcheron. Lorsque le capitaine de l'armée napoléonienne le vit, il lui ordonna de jeter immédiatement sa hache pendant que les soldats dirigeaient sur lui leurs fusils. Et l'homme, curieusement, demeure paisible, pas du tout effrayé par ce déploiement de force à son égard. Et l'officier s'en aperçoit. Avant que les soldats n'appuient sur la gâchette, il donne l'ordre de ne rien faire. Et il dit, ce paysan aura la vie sauve, mais nous mettrons sur lui une marque indélébile. On chauffe un fer au rouge, on le place sur la main du Russe qui ne bronche pas, qui ne pousse pas de cris, tandis que sa chair brûle. Lorsque le fer fut levé, le paysan aperçut sur sa pauvre main meurtrie une lettre. La lettre N. Mais qu'est-ce que ceci ? Demanda-t-il. Cette lettre, répondit l'officier, est un N. Il s'agit de l'initiale de Napoléon et cela veut dire que désormais vous lui appartenez. Durant un moment, le malheureux homme ne sut que faire, que répondre. Sa souffrance était très intense et soudain, il eut une idée. Il avait toujours été un loyal sujet russe, un bon patriote. Maintenant, c'était le moment de le montrer à l'ennemi. Et à l'instant même, il plaça sa main marquée sur une solide pierre, tandis que les soldats français le regardaient et riait de lui. Il prit sa hache et d'un coup sec et précis, il trancha sa main et la lança à l'officier. Cette main appartient à Napoléon, prenez-la et apportez-la lui. Mais pour moi, je demeure russe. Si je dois mourir, je ne mourrai pas avec une main napoléonienne et avec un corps russe. Je mourrai entièrement russe. Consécration. Consécration à son pays. Et combien d'hommes et de femmes ont consacré vraiment leur vie à leur patrie? Combien de cimetières sont constellés d'une multitude de ces croix impressionnantes qui laissent entendre que des vies se sont entièrement données pour avoir la victoire sur un ennemi qui était en train de s'emparer ou qui s'était déjà emparé d'un pays. Quelqu'un écrit ceci, le royaume de Dieu constitue à vrai dire un règne totalitaire. Contrairement aux systèmes humains qui doivent se contenter d'une conformité extérieure, le royaume de Dieu s'étend jusque dans nos pensées les plus secrètes. Il n'y a pas une pensée qui traverse notre esprit sans qu'elle suscite l'approbation ou la désapprobation du royaume. Et nous savons que c'est là, souvent, le vrai problème dans nos vies. Parce que nos paroles découlent de nos pensées. Nos comportements découlent de notre pensée. Toute notre philosophie de vie, finalement, dans la pratique, découle de tout ce qui se passe dans notre être intérieur. Le thème de la pensée dans les Écritures est un thème d'une énorme importance. Mon tout dernier livre, consacré à la dépression spirituelle du prophète Élie, « Le découragement, un chemin pour en sortir », contient plusieurs chapitres qui ne sont consacrés qu'au problème du monde de nos penser, parce qu'il faut que nous soyons au clair. Ça peut être là, l'endroit névralgique, la clé, peut-être essentielle dans nos vies, que nous n'avons pas cédé au Seigneur. Nous pensons que nous pouvons nous payer le luxe de l'imaginaire, des fantasmes. Nous pensons que nous pouvons cultiver une sexualité débridée dans notre esprit. L'essentiel, c'est que les autres ne voient rien, comme si cela s'arrêtait là. Mes amis, souvenons-nous que quantité de désastres dans nos comportements au niveau de la sexualité comme dans tant d'autres domaines viennent d'abord de ce qui s'est passé à l'intérieur de notre tête. Tout ce que nous avons cultivé au-delà du premier regard, au-delà de la première écoute, n'est-ce pas? Ce n'est pas le premier regard qui tue. Le premier regard est inévitable. Vous ne pouvez pas vous empêcher de temps en temps de buter le nez sur une publicité qui est odieuse. Le problème, c'est de ne pas garder le nez dessus, n'est-ce pas?
on est encore dans le domaine de la tentation tant que c'est le premier regard, mais quand on passe au second regard, on tombe dans le domaine du péché. Et mes bien-aimés, si nous n'avons pas des pensées qui sont mises sur l'autel, le deuxième regard viendra très vite dans nos vies. Et là, je pourrais, hélas, vous raconter, sans que vous puissiez savoir de qui il s'agit, je pourrais vous raconter bien des drames reçus dans la relation d'aide vraiment de manière dramatique, avec tous les dégâts que cela a pu faire. Oh, je pense ici à celui qu'on appelait Saint Augustin, qui nous vient donc d'Afrique du Nord, où il aura un long ministère d'une quarantaine d'années, un homme brillant, intellectuellement brillant, mais pourri au niveau de sa relation avec le monde féminin. Un coureur de jupons qui aime vivre une vie de travers dans tout ce domaine de l'immoralité. Une mère qui aime le Seigneur. Une mère qui prie pour lui, qui plaide auprès de Dieu pour que son cher fils, Augustin, soit sauvé. Finalement, il quitte l'Afrique du Nord. Il arrive à Milan, où il va devenir professeur de rhétorique. Et parallèlement à son activité professionnelle, dirions-nous aujourd'hui, il fréquente les rassemblements d'un docteur de l'époque, Ambroise de Milan, qui enseigne les Écritures, et il cherche Dieu, notre Augustin. Il souffre de tout son cœur. Sa mère a fini par le rejoindre à Milan parce qu'elle veut continuer à prier pour le salut d'Augustin. Et puis, un jour, il est beaucoup plus travaillé que jamais dans son jardin. Il a son jeune ami, son élève Alipius à ses côtés, qui va être son fidèle assistant pendant 40 ans et son collaborateur remarquable. Et là, il est dans une situation extrêmement difficile. Il souffre énormément dans son cœur parce qu'il a soif de paix. Et le Saint-Esprit travaille dans son cœur, entend les prières de sa chère mère Monique. Si bien qu'à un moment donné, il se recule dans un coin du jardin, où il s'assoit, et là il entend des cantilènes, ces petits chants d'enfants de l'autre côté, en français, « Prends Élie, prends Élie, prends Élie ». Et puis il y voit un appel de Dieu d'ouvrir le manuscrit qu'il a apporté de sa main, parce qu'il est en train de chercher dans les Écritures à cause du message d'Ambroise de Milan. Alors il regarde ce manuscrit, et il arrive très vite, en un instant, sans le vouloir même, sur Romains au chapitre 13, à la fin du chapitre 13, où il est dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière », verset 13 du chapitre 13, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. » Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, les désirs coupables. Et il dira lui-même dans ses confessions, je ne poursuis pas ma lecture car je n'en éprouvais aucun besoin, car à peine ce passage lu, une lumière éblouissante inonda mon cœur et les ténèbres du doute s'évanouirent à jamais. Et sa maman va mourir très rapidement après ce tournant radical dans sa vie. Mais mes amis, sa notoriété d'homme déréglé dans ses passions le poursuivait quand même. Ce qui fait que, après sa conversion, une femme avec qui il avait vécu précédemment l'a vue dans la rue devant lui, et elle a commencé à le suivre, et elle l'a interpellé. Il dit « Augustin !» Et quand il a entendu Augustin, il a accéléré un peu. Elle a accéléré aussi en continuant à lui dire « Augustin !» Et finalement, comme il persistait à avancer de plus en plus vite pour lui échapper, elle a avancé de plus en plus vite, elle est allée plus vite que lui jusqu'à ce qu'elle arrive juste derrière lui et elle lui a dit « Mais Augustin, c'est moi !» Et il lui a répondu, « Je sais, mais ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi. Ah, c'est vous ou est-ce que ce n'est plus vous ?» C'est ça notre problème, n'est-ce pas ? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, disent les Écritures. Et mes amis, dans ce monde qui est tellement imprégné de sexualité déviée, hors cadre, considérée même comme exaltante, comme tout à fait valable, dans ce monde où les valeurs sont complètement faussées, mes amis, si nous ne mettons pas tout sur l'autel, nous ne tiendrons pas longtemps la route. Parce que les pressions de cette société largement post-chrétienne sont bien trop fortes pour nous permettre de nous cantonner tant soit peu un certain temps dans une bienveillante neutralité. Nous allons être entraînés vers des catastrophes et je suis impressionné par le nombre de drames aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ et dans toutes les églises, de quelque bord qu'elles soient, de la gauche à la droite, du conservatisme le plus absolu de l'autre côté, que de drames qui sont liés au fait que, eh bien, aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ, on ne veut plus appeler le mal mal, le bien bien, tout est devenu relatif. Eh bien, nous nous portons mal à cause de cela. D'où l'importance de ce totalitarisme du Saint-Esprit. Oh, je prends une dernière image pour souligner les difficultés que nous avons dans ce domaine et toutes ces espèces de marchandages que nous faisons à notre manière, avec notre langage. Tous ces marchandages que nous faisons avec Dieu. Pour ne pas tout lui donner, tout en considérant que Dieu n'est pas honnête avec nous, parce que quand même, il pourrait être un peu mieux, il pourrait être un peu plus généreux, puisque nous sommes ses enfants. C'est l'histoire de deux enfants. Elle s'appelle Anne, et lui se prénomme Jacques. Et ce jour-là, Anne et Jacques jouent ensemble. Et ils jouent ensemble, notamment, sans doute, aux billes, petites billes. Et il se trouve que Jacques aime beaucoup les billes. Oh, j'aimais beaucoup les billes quand j'étais enfant. Et il en a ce jour-là 5 dans sa poche, dans une de ses poches. Parmi ces 5, il en a une. Oh, celle-là alors. Quand il se couche le soir, il la met sous l'oreiller après l'avoir caressée. S'il se réveille la nuit, il la sort, il l'embrasse. Il l'a tellement caressée sous toutes ses coutures qu'il en connaît les moindres aspérités, les moindres petits trous. Elle est tellement belle, figurez-vous qu'il a été gentil avec moi, il me l'a prêtée. Vous savez ça, pour qu'il me prête sa bille bleue. Ça c'est une grosse, je sais pas comment on les appelle, ce sont des calots, enfin ça, un calot. Vous rendez compte? Et puis, il se trouve que alors qu'il est en train de jouer avec Anne, Anne, elle, ce jour-là, a dans une de ses petites mains un joli sachet de chocolat. Un sachet de chocolat. Et c'est un problème pour Jacques parce que dans l'ordre de ses préférences, après les billes viennent les chocolats. Anne, comme bien des petites filles, est très observatrice. Elle regarde et elle voit une luminosité particulière dans le regard de Jacques chaque fois que ce regard caresse son petit sachet de chocolat. Alors, il arrive un moment où elle lui propose un marché. Elle lui dit, écoute, si tu me donnes toutes tes billes. Il en a donc 5, hein, en poche. Si tu me donnes toutes tes billes, moi je te donnerai tous mes chocolats. Le visage de Jacques commence par s'illuminer, et puis il y a une vague ombre qui passe quelque part, parce que subitement, il vient de se souvenir que parmi les 5 billes dans sa poche figure cette bille bleue. Alors c'est là, non? Alors il réfléchit, et si Anne est un as du marchandage, Jacques, lui, est un as de la stratégie fine dans sa poche. Et lui dit, mais oui, Anne, tout à fait d'accord. Il plonge sa main dans sa poche et il la connaît tellement bien, sa grosse bille bleue, hein, qu'il l'isole très rapidement, il sort ses 4 autres billes, il regarde Anne droit dans les yeux et se passe ce qui se produit parfois sur un pont entre deux pays à la frontière lorsqu'on échange des traîtres, etc. Vous savez, il y a une cérémonie un peu spéciale, hein. C'est un moment très délicat, très particulier, où l'un donne ses billes pendant que de l'autre main, il reçoit les chocolats. Échange extraordinaire. Anne repart dans sa direction parce qu'elle a ce qu'elle voulait. Elle regarde ses billes, elle est toute heureuse. Jacques part de son côté et très rapidement, un semblant de moustache brune colore l'entourage de sa bouche lorsque subitement Jacques s'arrête sur le chemin, fait demi-tour, revient vers Anne qu'il arrête d'un cri très net. « Anne ! » Anne, m'as-tu donné tous tes chocolats? M'as-tu donné tous tes chocolats? Le coupable, c'est lui. Elle lui a donné tout ce qu'elle avait. Et pourtant, elle est en train, elle, de devenir, quelque part, soupçonnable de tromperie. Je ne sais pas si vous voyez le rapport avec notre relation avec Dieu. Il m'est arrivé dans ma propre vie de dire à Dieu, Seigneur, tu n'es pas correct. Parce que dans ta parole, tu me fais des promesses. Tu me parles de vie en abondance, tu me parles de fleuves d'eau vive, tu me parles de ceci et de cela. Qu'est-ce que je connais de ça? Est-ce que tu es sûr que tu m'as donné, Seigneur, tous tes chocolats? Et le Saint-Esprit susurre à mon cœur, mais Maurice, comment peux-tu m'accuser? Alors qu'en réalité, soigneusement dans ta poche, tu caches, toi, la bille que tu n'as jamais voulu me donner jusqu'ici. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de projection dans nos vies. Nous pouvons projeter sur les autres les travers dont nous sommes coupables. Quand quelqu'un parle souvent de l'orgueil, vous pouvez être sûr, surtout chez les autres, vous pouvez être sûr qu'il a des problèmes, lui, dans ce domaine. Projection du tréfonds de notre cœur. Énormément de problèmes sont liés à nos projections. Et dans les Écritures, il y a des exemples magistraux concernant ce problème de la projection. Mais nous faisons aussi projection de nos problèmes sur Dieu. Et nous accusons souvent Dieu des faute dont nous sommes en réalité coupables et qui l'empêche, lui, qui veut ce totalitarisme de notre personne, qui l'empêche souvent, lui, de nous accorder ce qu'il aimerait tant nous accorder dans sa généreuse bonté. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, Jean 10:10, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous surabondiez, littéralement, que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit, Romains 15, verset 13. Mais bien-aimés, le Seigneur veut que nous débordions. Le Seigneur veut que nous transpirions sur les autres. Et là aussi, la nature est éloquente. J'ai sous les yeux quelques exemples. Saviez-vous qu'un arbre en bonne santé peut comporter jusqu'à 80% d'humidité? 80% d'humidité. Le végétal transpire. Une transpiration qu'on appelle évapotranspiration, phénomène qui libère dans l'atmosphère une eau évaporée physiquement ou transpirée physiologiquement. L'importance de ces mécanismes est considérable. Ceci est vrai pour tous les arbres et toutes les forêts du monde. C'est ainsi qu'un bouleau évapore 75 litres d'eau par jour. Un hêtre, 100 litres. Un tilleul, 200 litres. Un hectare de forêt des régions tempérées, entre 20 000 et 50 000 litres. Ainsi, la masse d'eau libérée dans l'atmosphère par évapotranspiration du manteau végétal est de l'ordre de 2 000 à 3 000 tonnes par hectare et par an dans nos régions. Elle peut atteindre de 6 à 7 000 tonnes en Europe du Nord et du Centre. On mesure l'ampleur de ce phénomène et le rôle qu'il convient de lui attribuer dans la régulation des climats et le renouvellement des masses atmosphériques. L'arbre et la nature respirent. Et elles respirent pour la santé de notre planète tout entière. Je disais dans un entretien avec quelqu'un aujourd'hui que toute la géographie de la terre d'Israël est riche d'un enseignement extraordinaire concernant la vie spirituelle. Et qui ne sait pas que nous sommes appelés à être un lac de Galilée et non une mer morte, repliée sur elle-même, n'est-ce pas? Quand je pense à cette oasis extraordinaire d'En Gedi. Là, cette région dans laquelle le fugitif David a dû se réfugier. Quand vous arrivez à En Gedi, c'est extraordinaire parce que, bon, vous avez des creux dans les rochers, vous voyez des bouquetins, énormément d'animaux. Pourquoi? Parce que vous avez une eau fraîche à proximité, vous longez un petit torrent, une végétation absolument luxuriante, un climat extrêmement agréable. Alors que peu de distance en dessous, c'est la mort. C'est la mort absolue, c'est la mer morte qui est en train d'ailleurs de baisser terriblement vite en ce moment, n'est-ce pas? Et le drame finalement, c'est que En Gedi, c'est le lieu où des eaux merveilleuses se précipitent dans la stérilité. Et je relevais encore avant de venir ici cette parole de Albert Simpson, le fondateur d'une des plus grandes missions mondiales, qui a eu un si beau ministère, et qui a écrit « Rares sont les cours d'eau qui se jettent dans la mer, la plupart aboutissent à d'autres cours d'eau. » Et il ajoute « Les meilleurs ouvriers ne sont pas ceux qui demandent à avoir leur sphère d'influence propre et un prestige personnel, mais ce sont bien plutôt ceux qui déversent ailleurs leur flot de bénédictions. » Nous ne sommes pas faits pour vivre sur notre petit territoire personnel que nous défendons bec et ongle avec fierté. Nous sommes appelés à déborder. Nous sommes appelés à transpirer. À transpirer déjà dans l'église, vous rendez compte, une église dans laquelle on transpire les uns pour les autres, hein, pour que d'autres en bénéficient. Et puis à transpirer, bien sûr, au sein de ce monde, n'est-ce pas? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume 23, verset 5. Donc, le fait d'être rempli de l'Esprit est destiné à faire en sorte que nous nous répandions en bénédiction sur les autres. Une véritable plénitude du Saint-Esprit mène à l'évangélisation. Une église remplie du Saint-Esprit ne peut être qu'une église missionnaire qui veut répandre autour d'elle ce dont elle déborde par le règne du Seigneur en elle. Nous avons un couple d'amis qui sont missionnaires depuis bien des années en Afrique, au Nord Cameroun, dans la région de Maroua. Et dans un de leurs courriers, ces chers amis ont écrit ceci: notre groupe de maison a reçu un nom. Tout passe en un mot, mais qui signifie tout passe en deux mots. Le va-et-vient régulier, la proximité de la route et d'autres maisons missionnaires nous a incités à choisir ce nom. À l'extérieur de la concession, de la station missionnaire, nous avons placé une cruche remplie d'eau, et c'est environ 140 litres d'eau qui sont bus quotidiennement par les personnes voyageant à pied ou à vélo. Oui, tout passe. Tout passe aussi, la chaleur, la fatigue, les bons moments comme les plus difficiles. Que nous soyons aussi des canaux où l'Esprit du Seigneur coule et que tout ce qui passe vienne de lui seul. Acte 2, 17 et 33, acte 10, 45, je répandrai de mon esprit. Je répandrai. Et le verbe grec signifie « je verserai à flot », un flot large, un flot généreux, un flot qui déborde, une notion d'abondance, en fait une inondation, disent les Écritures. Tite 3.6, il a répandu le Saint-Esprit sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Ou encore Romains 5.5, l'amour de Dieu a été versé à flot hors du cœur de Dieu, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'ai volontairement amplifié en français le sens profond des termes utilisés dans le texte grec. L'amour de Dieu a été versé à flot hors de Dieu, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et en fait, on peut le traduire au présent. Et vous avez peut-être la traduction en français au présent dans le texte. Mais c'est un temps particulier. C'est un temps grec qui est le parfait. Mais ce parfait-là a cette particularité, c'est qu'il évoque un événement qui s'est passé dans l'histoire à un moment donné, mais dont les conséquences continuent jour après jour tant que nous sommes sur cette terre. Donc, ce qui s'est passé à partir de la première Pentecôte se perpétue en quelque sorte dans chacune de nos vies aujourd'hui, et maintenant, et demain, et après-demain, et ainsi de suite. C'est la même pensée que dans l'Épître aux Galates, Galates 2, 20, 21, n'est-ce pas ? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été ou je suis crucifié à Christ. Le fait s'est accompli dans le passé, mais ses conséquences durent continuellement, l'application est là, dans mon présent. Oh, j'ai ce beau texte sous les yeux d'Alice Van Berchem. Il est un torrent qui sort du sanctuaire, qui fertilise tout sur son passage, qui guérit, qui donne la vie, qui assainit. Si vous êtes déjà entré dans ce fleuve de la grâce jusqu'aux chevilles, peut-être jusqu'aux genoux, et même déjà jusqu'aux reins, il y a encore une expérience plus profonde, celle de se perdre dans la grâce, d'être submergé, de nager dans l'océan de l'amour de Dieu. Et vous vous souvenez que ce matin, en introduction à notre étude, nous avons lu ce si beau texte prophétique de Ézéchiel 47, dans ses 5 premiers versets, où on voit progressivement le prophète s'enfoncer de plus en plus avant, jusqu'à arriver au cœur du courant, là où il n'a plus pied, de ce courant qui donne la vie. Et c'est à ce courant-là qu'Alice Van Berchem fait allusion. Alors faut-il, en terminant souligner, mais ce sera aussi l'ouverture de notre étude de ce soir à 19h, faut-il souligner que la plénitude, pour utiliser ce terme commode, la plénitude du Saint-Esprit, c'est une plénitude en Christ. Plénitude en Christ, car c'est en étant centré sur Christ que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est par là que tout à l'heure, nous allons commencer cette quatrième et avant-dernière étude pour bien comprendre que le totalitarisme du Saint-Esprit, qui est aussi celui du Père, qui est aussi celui du Fils, mais le totalitarisme du Saint-Esprit est là pour que la personne de Christ occupe la place centrale, comme nous le disions dans notre introduction hier. C'est Christ au centre de notre vie qui est l'éminente preuve d'une vie vécue dans ce que nous appelons la plénitude du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu veut, voilà ce que le Saint-Esprit veut pour chacun de ceux qui s'appellent disciples de Jésus-Christ par la grâce du Père. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, ce totalitarisme que nous avons évoqué nous dérange, parce que nous sommes au sein d'une société qui aime pouvoir s'abreuver à une multitude de fontaines à la fois. Une société qui aime emprunter 36 chemins contradictoires à la fois. Et c'est vrai, Seigneur, que l'ambiance dominante à cause du règne du prince sur ce monde, du prince des ténèbres, l'ambiance dominante fait pression sur nous. Et nous sommes continuellement tentés de vivre un christianisme au rabais, dans lequel nous te considérons bien comme notre sauveur, mais où nous contestons ta seigneurie, comme si ces deux valeurs, ces deux titres, n'étaient pas indivisibles, indissociables. Et Seigneur, nous en supportons les conséquences, jour après jour. Et nous devenons, en tant que disciples de ton Fils bien-aimé, les croyants les plus malheureux de cette terre. Seigneur, merci de nous avoir appelés qu'on ne peut servir de maître, et qu'il est tellement délicieux de te servir toi, parce que tu ne saurais nous tromper. Tu tiens tes promesses. Merci Père, parce que tu es un Père